Mémodio, une mémoire sonore.
Bonsoir, merci d'être venu aussi nombreux. Hein. Alors, c'est un plaisir donc commencer, et un honneur, de commencer cette OALDA par cette conférence. Alors, chaque année, je propose un thème, et c'est vrai que celui-ci est plus hard, parce que les documents ne sont pas toujours disponibles, parce qu'on trouve des choses sur un pays et moins sur un autre. Et cette année, j'ai pris le pari de parler des 5 pays du Maghreb. Vous allez voir, c'est très très différent, mais j'ai pu trouver quand même matière à vous informer. Et alors, deuxième élément, c'est que c'est vraiment une recherche. Donc voilà, je profite de la CAV et de ma participation pour travailler pour moi. Donc c'est une recherche sur justement ces figures de résistance. Il y a tout l'aspect littéraire qu'on trouve aussi, hein, parce que certains de ces résistants ont écrit, et il y a des textes qui sont en arabe, il y a des textes qui sont berbères, il y a des textes qui sont en espagnol. Et alors évidemment, ça demande un petit peu plus de travail. Donc aujourd'hui, je vais vous donner envie et vous faire découvrir certains aspects de la résistance au Maghreb. Et vous allez voir, alors dans le temps, j'ai pas essayé de suivre une chronologie, parce que quand on parlera de l'Algérie, ça sera vraiment au 7e siècle. Je vais commencer quand même par le Maroc, et parce que là, il y a vraiment... c'est l'anniversaire, donc, et il y a matière, il y a eu beaucoup d'écrits, et c'est intéressant de faire découvrir un petit peu le... Voilà. Je commence par la photo, donc, d'Abdelkrim. Alors, et Abdelkrim a été, donc, vous le verrez dans la diapositive suivante, en 1925, il a fait la une du Time. Donc, et voilà. Donc, à chaque fois, vous aurez un petit encadré qui vous situe un petit peu le pays, qui résume un peu ce dont je vais parler. Et après, on verra dans le détail. Et puis, évidemment, je laisserai le temps d'échange. Et si vous êtes intéressé par la bibliographie, je peux vous l'envoyer. Donc là, il y a pas mal de documents, il y a pas mal de livres à consulter. Donc, Abdelkrim al-Khattawi, c'est le chef de résistance contre et l'Espagne et la France. On parle de la guerre du Rif. Son nom, en berbère, chez les Rifains, en sachant qu'il y a 3 familles de berbères au Maroc, donc dans le sud, c'est le Tashelhit. C'est de là que vient le mot Chle qu'on attribuait aux Allemands, Chle. Dans le Moyen Atlas, il y a le Tamazir. Et dans le nord, c'est le Rif. Alors, il y a des différences énormes, mais il y a aussi des ressemblances. Voilà. Et donc, en Rifin, on disait Moulay Mohamed. Et Mohamed, c'est la prononciation berbère de Mohamed, puisqu'il il s'appelait Mohamed Ben Abdelkrim. Et il est connu plutôt comme Abdelkrim al-Khattabi. C'est-à-dire on a pris le nom de son père, il l'a gardé et il est connu sous le nom de Abdelkrim. Alors évidemment, c'est une icône des mouvements indépendantistes contre le colonialisme. Et il y a eu beaucoup d'écrits en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, puisque c'était vraiment la première fois qu'un opposant s'oppose de cette façon à la colonisation. Et non seulement en essayant de demander l'indépendance, mais en instaurant un autre régime que celui qui existait à l'époque et qui continue d'exister, et qui est la royauté. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très importante. Et alors cette république, Abdelkrim est né à Agdir. Alors ça aussi vous la verrez tout à l'heure sur la carte. C'est une ville qui est très célèbre, très vénérée. Voilà, c'est un petit peu j'ose pas parler de pèlerinage, mais beaucoup de gens, quand on parle de Agdir, c'est un petit peu mythique. Et il fait partie du clan des Aït Youssef, ou Ali, qui font partie des tribus de Aït Ouryarl. Alors, Son père a été juge, donc il était fonctionnaire de l'administration espagnole, et lui-même, donc après ses études, va devenir cadi, juge à Melilla. Et donc c'est un fonctionnaire de l'administration espagnole. Alors, ses études, c'est très important, il va suivre des études religieuses à Fès, donc dans les médersas. Alors les médersas, c'est l'équivalent des collèges et lycées. Voilà. Et après, il y a l'université, et donc à l'époque, donc, les grandes universités, c'était à Fès, la Qaraouin, à Tunis, la Zeytouna, et la troisième, c'est au Caire, l'Azhar. L'autre élément, c'est qu'il a été journaliste. Alors ça, c'est très important. Donc, c'est quelqu'un donc, qui maîtrisait l'espagnol, qui maîtrisait l'arabe, qui maîtrisait le berbère, le rifa. Et donc, il a écrit entre 1908 et 1915, donc, au quotidien de Melilla, le télégramme du Rif. Donc, j'ai dit qu'il est devenu cadi en 1915. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à s'opposer à la domination espagnole. Et il est emprisonné donc entre 15 et 16, et il abandonne donc ses fonctions de cadi et va revenir à Agdir, et c'est là qu'il va essayer de regrouper les tribus pour s'opposer à la colonisation, aux colonisations, puisque le nord était colonisé par l'Espagne, et donc à partir de Fès et de Ouarra, du fleuve Ouarra, c'est la partie occupée par la France. Et son frère va avoir un rôle important aussi, hein, puisque ce sera un chef d'armée. Alors, j'ai parlé d'Agdir, et l'autre élément, donc, c'est le plus célèbre, c'est évidemment la bataille d'Anual. Les Espagnols, dans leur historiographie, parlent de la défaite, donc vraiment du désastre d'Anual, puisque, effectivement, le 22 juin, entre le 22 juin et le 9 août, ça sera vraiment l'armée espagnole, donc du général Manuel Fernández Silvestre, va être battue, et les Rifains vont avoir un butin. Alors, j'insiste sur le mot butin parce qu'on le retrouvera dans les résistances, dans ce qu'on dira tout à l'heure à propos des razzias. C'est-à-dire que c'est une vieille tradition et qu'il y a même un code d'honneur, c'est qu'on fait certaines choses dans la guerre, et on ne fait pas d'autres. Et donc là, c'est essentiellement les armes qui sont prises, 200 canons, 400 mitrailleuses, 20 000 fusils. C'est énorme, hein, on compte que l'armée de Abdelkrim avait à peu près 30 000 hommes, et effectivement, ça a été la bataille donc, la plus importante. Et c'est ça qui va le faire connaître, et c'est à partir de là donc, qu'il va... proclamé donc le 18 septembre 1921 la République du Rif. Alors effectivement, ça étonne quand on parle de la République du Rif pour un pays comme le Maroc, parce que d'abord, ça ne fait pas partie des programmes, vous devinez pourquoi, et on n'en parle pas. C'est quelque chose, c'est un petit peu les silences mémoriels qu'on trouve d'ailleurs en Algérie, qu'on trouve... Il y a certaines choses dont on ne parle pas quand... Donc, et il va proclamer donc la création de la République du Rif avec un drapeau, vous le voyez, avec des billets de banque. Alors évidemment, ils ne vont pas être réellement utilisés, hein, mais disons, au niveau du symbole, ça a été très très important. Et j'ai mis une petite carte pour vous montrer à peu près la partie qu'il occupait par rapport au Maroc. Alors évidemment, si vous voyez la carte du Maroc actuel, elle englobe le Sahara, donc la partie orange, qui était occupé par l'Espagne, donc ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Sahara espagnol, d'autres le Sahara marocain. Et le nord, vous le voyez, c'est la partie, donc, elle est en plus grand, de la République du Rif. Donc c'est une confédération des tribus, et évidemment, vous devinez que, étant journaliste, ayant voyagé en Espagne, connaissant un petit peu les régimes, et ayant des contacts avec des organismes, des organisations de libération d'un peu partout. Donc, il était à même d'organiser, dès ces années-là, donc, une confédération avec des élus, avec une espèce de parlement élus, donc avec les chefs des tribus. Alors évidemment, dans ces structures, sa famille occupe une place très très importante. Hein. Donc, et évidemment, c'est un islam sunnite, c'est-à-dire que dans toutes ces résistances, on verra avec les autres, l'islam est très très important et posé là. Alors évidemment, c'est un islam c'est l'islam des Zawiyas. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des confréries qui ont des lieux et qui enseignent, qui propagent l'islam, mais aussi qui protègent les populations et qui participent à la résistance. Donc ça, vraiment, il faudrait bien garder ça en tête, c'est que c'est en même temps politico-religieux, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à parler de l'islam politique, mais l'islam a toujours été politique, depuis Mahomet, qui était un chef de guerre, qui était un politicien, et puis on ne sépare pas, il n'y a pas. Dans la conception, justement, de l'islam, le ici-bas, din wa dunya, tout le temps, on a ces deux mots qui vont ensemble, ici-bas et l'au-delà. C'est une religion pour ici, pour aujourd'hui, pour la terre, et c'est aussi une préparation pour l'au-delà, donc où le Dieu, tout le reste est englobé. Voilà. Là, vous avez quelques éléments, donc une bureaucratie très très centralisée. Ils commencent à construire des routes. Alors, tout ce que je mets en gras, c'est vraiment volontaire, parce que cette partie du Rif, vue, vous allez voir, quand on voit aujourd'hui le développement, ce que c'est devenu, eh ben, c'est la partie du Maroc où il y a le moins de routes, où il y a le moins de développement, où il y a le moins d'usines. Et même quand il arrive une catastrophe comme un tremblement de terre, eh ben, les secours arrivent très très tard et les officiels mettent beaucoup beaucoup de temps, voire pas du tout. Il y a eu des moments où le roi ou les ministres n'ont tout simplement pas été. Parce que c'est une région rebelle et cette rébellion, elle est restée dans la pensée, elle est restée et de façon réciproque. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres événements dans les années 58 où on va retrouver encore une fois, ça recommence, où il y a des massacres. Donc après l'indépendance du Maroc, tout simplement parce que c'était une région qui menaçait, donc qui représentait une menace pour la royauté. Alors, donc, j'ai montré tout à l'heure le drapeau avec le croissant. Vous voyez la question de la religion, le croissant de lune vert. Et au niveau de la santé et de l'éducation, alors le paradoxe, hein, en ce moment, au Maroc, il y a des manifestations. Et en travaillant sur cette question, c'est ça qui est ressorti, c'est que c'est toujours les éternels problèmes, l'éducation et la santé. Hein, donc, il a fait quelques essais, mais... La situation de guerre n'a pas permis justement de réaliser. Voilà. Alors, j'avais montré ça en début, donc au niveau de la notoriété de Mohamed Abdelkrim. Donc, et encore une fois, comme leader islamique, comme progressiste, comme nationaliste et combattant de la liberté. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cocktail très, très. Qui n'élimine aucun aspect, et aussi bien donc pour le monde musulman que pour le monde arabe, enfin les pays arabes, et au-delà. Hein, je vous ai dit, il avait des sympathies en France, en Angleterre, en Allemagne. Voilà. Et la preuve donc de faire la une du Time donc, en 1925. Alors, évidemment, cette république ne va pas durer, donc vous avez vu, jusqu'en 1926. Et en fait, il y a eu donc, les attaques, la bataille d'Annual avec les Espagnols, mais il y a eu aussi des attaques contre des positions françaises. Donc, et Mohamed Abdelkrim voulait justement gagner, il pensait même aller jusqu'à Fès. Et en fait, c'est ça qui va avec... il a permis, en fait... à l'Espagne et à la France de faire une coalition et donc qui vont lui envoyer, vous vous rendez compte, 275 000 soldats. Et évidemment, n'oubliez pas qu'à cette époque, il y a des progrès très très importants au niveau des armes, au niveau de l'aviation. Donc il y a des villages qui vont être et l'utilisation, surtout à cause de l'utilisation du gaz. Donc il y a des villages entiers qui ont été gazés à ce moment-là. Et si il va se rendre aux Français, donc le 27 mai 1926, essentiellement, c'était vraiment pour que les bombardements et l'utilisation du gaz cessent. Vraiment, c'est vraiment cette chose-là qui a fait qu'il se rend. Alors, il va s'installer, donc on va l'emmener à La Réunion, donc avec sa famille, et puis il avait demandé à venir en France, et sur le bateau qui l'amenait à Marseille, le bateau s'était arrêté au Caire, et il s'est enfui. Et donc, il est resté au Caire jusqu'à sa mort en 63, voilà, à l'âge de 80 ans. Voilà, je regarde l'heure pour... Alors, il y a une petite bibliographie, donc surtout le livre de Laroui, l'histoire du Maghreb. Il y a Zakia Daoud, qui est une grande journaliste franco-marocaine qui a écrit « Épopée d'or et de sang ». Et puis il y a surtout eu un ouvrage collectif des actes du colloque international d'études historiques en 73 à Paris. Alors, je vous emmène en Algérie. Alors j'ai beaucoup hésité. Hein. J'ai travaillé sur l'émir Abdelkader et puis je me suis dit, il est très connu. Et puis surtout je me suis dit, il ne va pas y avoir de femmes. Donc ça, on va sûrement me le reprocher. Et du coup, voilà, je me suis lancé dans l'étude de Dihia. Donc, alors, elle est plus connue sous le nom de la Kahina, donc, et qui est une reine guerrière berbère. Donc là aussi, ça me permettait de... On était dans le Rif, on était dans le pays berbère, mais là aussi, on est dans le pays kabyle. Et donc, elle va s'opposer... Oui, c'est vrai, voilà. Mais bon, disons que vous allez voir, il y a une réappropriation aussi bien par les militants que par la littérature. Hein. C'est une figure mythique, alors plus que mais de résistance à l'origine. Et donc, elle va s'opposer aux Omeyyades, donc qui étaient en train au 7e siècle, qui arrivaient. Pour conquérir le Maghreb. Et en fait, elle remplace, voilà, elle succède à Kuseïla, qui était le chef de guerre des tribus berbères, vers 688, contre les armées omeyyades. Et donc, les troupes arabes étaient dirigées par le gouverneur et général omeyyade Hassan ibn Nu'man. Donc, Dihia, donc, le mot Kahina, et serait d'origine punique, hein, Kohenet, qui voudrait dire prêtresse. Donc c'est une reine guerrière, j'ai dit, berbère, qui combat les Omeyyades. Et alors dans le mot Kahina, il y a, c'est beaucoup plus les Arabes qui utilisent ce mot, parce que le mot est utilisé, puisque on pense qu'elle était chrétienne. Et les Kahana, encore aujourd'hui, quand on dit Kahin, c'est un petit peu le moine chrétien. Voyez, donc, alors il y a cet aspect-là qui est aussi, on parle de devineresse, hein, dans le sens prêtresse, devineresse, donc il y a de la magie, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est un personnage qui porte... là j'ai mis une petite photo d'une une série de Rachid Kimoun au parc de Bercy, hein, on peut le voir encore aujourd'hui, et il y a un certain nombre de personnages de différents pays, dont la Kahina, il l'appelle la Kahina la Kabyle. On va l'utiliser aussi, je parlais tout à l'heure de la réappropriation, on la considère aussi comme une des premières féministes. Vous voyez, donc là aussi, il y a tout un symbole dans le... Donc, tout comme une icône donc, de la masérité. Et Kateb Yassine a écrit une pièce donc, qui s'appelle La femme sauvage. Et pour lui, enfin, il en parle comme. Il parle de la Vierge aux abois, dans Nejma. Donc, il parle aussi de la déesse sudique rutilante. Donc, ça, on le trouve chez Khairuddin dans son roman Agadir. Voilà. Alors, elle est très célèbre par ce qu'on appelle la bataille des chameaux. Et en fait, donc Hassan ibn Nu'man, qui est arrivé donc, en Afrique du Nord, a entendu parler donc, de cette reine qui régnait sur les Berbères. Et il a voulu la rencontrer. Et donc, et là où ils devaient se rencontrer, c'était sur les bords d'un oued. Et en fait, elle va cacher ses armées. Et elle va, quand les troupes arabes se lèvent le matin, donc quand ils attaquent, ils sont accueillis avec des tirs de flèches, avec une cavalerie qui les tient en embuscade. Et donc ça a été vraiment un massacre. Et évidemment, ils vont les poursuivre donc, jusqu'à Gabès. Et alors en arabe, on parle donc de cette bataille, la bataille des chameaux. Elle s'est passée dans Nahr al-Bala. Alors ça aussi, c'est vraiment le fleuve de, enfin du malheur. Et le même mot, Bala, on va le retrouver utilisé un petit peu avant, hein, dans le massacre qui s'est passé à Karbala. Et il y a un poème très célèbre, Karbala, la zilti karban bala. Et il y a le mot Bala, c'est vraiment le mal qui vous tombe sur la tête, auquel on ne s'y attend pas. Donc, il y a vraiment une correspondance dans les mots, dans les poésies à ce propos. Donc, les Arabes vont se réfugier en Libye, Cyrénaïque, pendant presque 4 ou 5 ans. Et alors, là aussi, je parlais tout à l'heure du code de l'honneur, c'est qu'elle va libérer, elle a eu beaucoup, beaucoup de prisonniers, et à l'époque, on libérait les prisonniers. Donc, elle va en garder un, Khalid ibn Yazid, qui va la trahir après. Et voilà, je parlais de Bala, c'est la rivière des épreuves, hein, j'ai le mot plus précis. Alors, ça sera donc la défaite. Et évidemment, elle s'attendait à ce que Hassan revienne avec une armée plus forte. Et en plus, elle n'a pas eu, elle a pratiqué la politique de la terre brûlée. Donc, elle détruisait tout pour qu'il ne trouve rien. Et en fait, ce sont les tribus qui n'ont pas supporté cette politique-là. Et donc, elle va se retrouver un petit peu toute seule. Il y a plein de tribus, de chefs de tribus qui vont l'abandonner, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces décisions, cette politique de terre brûlée. Hassan ibn Nu'man, je disais, revient donc à l'assaut avec des renforts du calife Abdelmalik, qui lui accorde des milliers de guerriers. Et elle va engager une dernière bataille face aux Omeyyades, et elle va être tuée aux Aurès. Donc, effectivement, alors, dans le lieu qu'on appelle aujourd'hui Bir el-Kahina, le puits de la Kahina, mais il y a d'autres versions. Alors, dans tous les écrits que j'ai consultés, des fois, j'avais 3, 4, 5 versions, selon les auteurs, selon les historiens, selon que c'est en Espagne ou en Afrique du Nord ou en France ou ailleurs. Et donc, on pense aussi qu'elle serait morte à Tabarka, donc plutôt du côté tunisien. Alors, je ne veux pas finir de parler de la Kahina sans citer donc, Gisèle Halimi, donc, dont on parle souvent à la cave. Et donc beaucoup de romanciers, d'essayistes, féministes se sont appropriés la figure de la Kahina pour sa charge symbolique. Voilà, je disais tout à l'heure, comme une des premières féministes. Et pareil pour les berbéristes. Et là, vous avez donc un roman de Gisèle Halimi qui s'appelle La Kahina. Mais elle en parle aussi dans Le lait de l'oranger. Donc je vous laisse lire. Donc mon grand-père paternel me racontait souvent par bribes l'épopée de la Kahina, cette femme qui chevauchait à la tête de ses armées, les cheveux couleur de miel lui coulant jusqu'aux reins, vêtue d'une tunique rouge enfant. Enfant, je l'imaginais ainsi, d'une grande beauté, disent les historiens. Devinerais-je, cette passionnaria berbère tint en échec pendant 5 années les troupes arabes de l'arabe Hassan. Ces quelques lignes sont extraites du lait de l'oranger écrit en 88 et qui continue mon récit autobiographique. C'est toujours Gisèle Halimi qui parle. Voilà, donc pareil, une petite bibliographie, il y a un livre de Frédéric Bobin, La Carina, mythique reine berbère aux mille visages, Gisèle Halimi, donc j'en parle, dans Nejma, et Ibn Khaldoun, l'historien tunisien du XIVe siècle, en parle beaucoup, là aussi dans l'histoire des berbères. Voilà. Et puis il y a Baya Jukebounou, et de Jurke, donc femme algérienne.
Mémodio, une mémoire sonore.
On va aller en Mauritanie. Ça va. Et ben j'ai cherché longtemps, parce qu'il y a beaucoup de résistants, il y a beaucoup de plus ou moins connus. Et bon, j'ai fait mon choix. C'est celui qu'on considère le plus grand résistant de Mauritanie, Ismaïl Ould Bardi Rghibi. Alors, les Rghibet, c'est une tribu très, très connue. Et il est le cheikh des Ouled Lahsen, fraction guerrière des Rghibet. Et ce sont des arabophones. Donc là, on passe du côté arabe. Tribu dominante du Sahara nord-occidental, entre l'Adrar mauritanien et le sud marocain. Donc, alors, en sachant que cette partie-là du Sahara, donc, qui est occupée par l'Espagne, donc, et c'est que c'est là que ça va se passer, donc, entre ces deux frontières. Donc, on évalue donc à 35 000 hommes, donc le gros des troupes de résistance sahariennes. On continue. Alors, voilà, j'ai mis la carte la plus proche de l'époque. Donc, vous avez tout à fait à la pointe du Sahara, donc le Sahara occidental, vous avez l'actuel Nouadhibou, donc sur la côte. Et l'Adrar, il est à l'autre bout, donc à côté de la ligne rouge, je crois que vous arrivez à voir l'Adrar, toute cette partie-là. Alors, la question des cartes est très très importante parce qu'en fait, à l'époque, on ne savait pas trop ce qu'il y avait. On parlait de vide. Vous voyez, donc, et à part les régions côtières où les Français vont s'installer, les Espagnols, donc au nord, vont s'installer, tout le reste était, on ne savait pas ce qu'il y avait. Donc on va envoyer ce qu'on appelle des groupes nomades qui vont faire des relevés, qui vont essayer de noter les différents lieux, les puits, les frontières, les lieux de pâturage. Voilà. On continue. Oui. Et donc, alors, c'est... Je vous mets mes brouillons. Hein. Voilà, c'est mes notes. Donc, sur lesquels j'ai travaillé. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'insécurité. Quand je dis le vide, donc c'est l'insécurité. Ce qui fait que, par exemple, il y a une confrérie, donc je ne voulais pas ne pas en parler, parce qu'ils sont très célèbres, l'Ainain. C'est une tribu qui a essayé une confrérie soufie, donc, et son chef, c'est l'Ainain. Au XIXe siècle, elle a essayé de se soulever, mais en 1910, donc, son chef est mort et l'impact n'a pas été très important. Alors, je parlais des tribus Rghibet. Dans ces tribus, on va trouver des fractions qui sont résistantes et très souvent, elles sont loin des côtes, loin des garnisons françaises ou espagnoles. Et c'est des pasteurs et ils ont des chameaux qui leur permettaient d'aller très très loin. Alors que ceux qui restent près de la côte, eh bien, ils vont être plutôt pacifistes. Ils vont chercher à faire des accords avec la France, avec l'Espagne. Et c'était des éleveurs plutôt sédentaires et ils élevaient des moutons. Donc on a ces dichotomies constantes entre les guerriers et les pacifistes. Alors, ceux qui étaient pacifistes, très souvent, ils étaient plus religieux. Ils étaient plus soit soufis, soit plus pratiquants. Et à ajouter la question de la hiérarchie. C'est-à-dire que dans chaque tribu, eh bien, il y avait l'aîné, il y avait le cadet, et ça aussi, ça comptait. C'est-à-dire que les aînés vont avoir plus de poids, mais les cadets vont essayer aussi de s'imposer et il va y avoir des batailles de pouvoir, mais parfois des batailles réelles entre les différentes tribus, ce qui rend la résistance plus difficile et plus et plus délicate. Alors, mais évidemment, les tribus vont aussi profiter des oppositions entre les colonisations, c'est-à-dire entre la France et l'Espagne. Par exemple, pour les armes, les Allemands, eh bien, ils vendaient des armes. Voilà. Alors, ce qui était pratiqué aussi, c'était les razzias, donc les razous. En français, on utilise beaucoup ce mot razou, et avec un code d'honneur qui était très très important. Et par exemple, on n'attaquait pas la nuit. Très souvent, les razzias, même en Arabie, dans la période anti-islamique ou après l'islam, se faisaient à l'aube. Donc, il y avait, on n'attaque pas la nuit. On n'attaque pas les femmes. On ne vole pas les bijoux. Vous voyez, il y avait beaucoup de... Et très souvent, quand on prenait les armes, quand on prenait les butins de guerre, qui étaient plutôt... Eh bien, on laissait, ou parfois même de la main-d'œuvre, hein, on prenait parfois des esclaves, eh bien, on laissait, on trouve dans les textes, on laissait une chamelle pour que les gens ne meurent pas de faim. On leur laissait de quoi se ravitailler. Voilà, donc... Et le but, donc évidemment, le but, voilà, une chamelle laitière. Et le but, c'était, il ne fallait pas ruiner, il ne fallait pas détruire. Vous voyez, on les ruine, on leur prend leurs biens, mais il ne fallait pas les détruire. Donc voilà, c'était ce qu'on appelait le code d'honneur. Alors les razzias vont se multiplier et évidemment, notre résistant, donc Smaïl Ould Bardi, va participer à ces razzias. Et il y a un poème très très célèbre donc, en arabe que je comprends difficilement, l'arabe des Rgibet, vous voyez, avec plus dans le Hassani que dans l'arabe, et dans lequel on chante, donc j'ai pu comprendre quand même quelques vers, et on raconte que donc, il était avec Ahmed Ould Hammadi, qui était blessé. Donc, et il était blessé et il a porté, en portant 5-6 fusils, portant son ami sur le dos et réussissant à le sauver et à se sauver lui-même. Donc il y a un très très long, une épopée qui raconte un petit peu ce moment-là. Et évidemment, et ça va durer, et c'est entre 33 et 36 que il va être complètement abandonné, même les siens. Donc, et il va mourir un petit peu isolé dans le dénuement en 1972. Voilà. Et alors évidemment, on a essayé d'honorer sa résistance. Donc là, il y a un mausolée, Darih al-Mujahid Smaïd Ould al-Walid Ould al-Bardi. Et même, il y a à la frontière entre la Mauritanie et l'Algérie. Donc, vous avez vu sur la carte tout à l'heure, là, sur cette frontière-là, entre l'Algérie, pardon, si je peux remonter juste. Voilà, merci. Voilà, vous voyez, tout à fait en haut à droite, eh bien là, sur cette frontière, merci. Sur cette frontière, il y a un passage, donc on va redescendre deux diapos plus bas, et là, plus haut, pardon. Merci. Et là, on voit le passage frontière donc, qui porte son nom. Alors, on change de pays. Et là, je vous emmène en Tunisie. Et alors, je ne vais pas vous parler de Bourguiba, le Moujahid Akbar. Voilà, tout le monde le connaît. Puis bon, j'entre pas là-dedans. Et par contre, j'ai découvert, alors c'est vraiment une découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez, les Kroumirs. Est-ce que vous connaissez les Kroumirs ? Oh ben, je suis très content de l'avoir fait. Alors, les Kroumirs, vous allez voir, c'est alors, soit avec un KH ou encore Khmir. Alors, en arabe, c'est Khmir. Et vous savez que la racine, c'est le Khmr, le vin, Khmira, la levure de bière. Donc, voilà. Alors, vous allez voir... Donc, ils sont d'origine arabe et ils forment une confédération tribale établie donc, dans le nord-ouest de la Tunisie. Et la région porte leur nom, la Kroumirie. et ils sont connus pour avoir été à l'origine de la guerre franco-tunisienne de 1881. En fait, c'est pour ça que je les ai pris, parce que vraiment, ils sont à l'origine du protectorat français en Tunisie. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Voilà. Et donc, il y a une... J'ai pris une image de la bataille, donc des... Alors, Ibn Khaldoun les fait descendre d'Abdullah al-Khoumiri, membre de tribus originaires d'Arabie, qui serait arrivé en Afrique du Nord en 973, et dont les sept fils seraient les ancêtres des actuels Khoumir. Alors, il y a une autre version qui les lie justement. Tout à l'heure, Yann parlait de Chabbi, à une tribu, donc le poète Chabbi, à une tribu des Chabbia. Donc, qui serait plutôt une confédération religieuse arabe qui serait venue du sud tunisien. Donc, on a ces deux versions. Et en 81, donc 1881, il y a des troubles le long de la frontière algéro-tunisienne entre la tribu des Khoumir et celle des Ouled Nad, qui se situaient en Algérie française. Alors, j'utilise les termes de l'époque. Il y a eu une incursion, donc et évidemment, il y a eu des morts, 6 soldats français sont tués, et une cinquantaine de la tribu des Ouled Nad. Et alors, comme vous le savez, Jules Ferry, qui était président du Conseil, va ordonner, alors à l'époque, c'était vraiment une expédition limitée. Hein, il appelait ça une expédition punitive. C'était, voilà, ils ont osé... s'attaquer à des Français, à une tribu qui était en Algérie. Et donc, il va envoyer une expédition punitive pour garantir l'intégrité territoriale de la France, donc de l'époque. Et il va envoyer donc Léonard Léopold Forgemol de Bosquenard avec plus de 20 000 soldats. Donc, on va continuer. Et alors, évidemment... Les tribus vont s'allier aux Khoumir face à l'envahisseur. Les Français vont perdre beaucoup de soldats, donc on parle de centaines, de 700, 800 soldats. Mais évidemment, le nombre de l'armée française était tel que ils vont être écrasés. Donc voilà. Et alors à l'époque, alors en France, on utilisait le mot Khoumir, et donc on trouve dans des textes. C'était, quand on traitait quelqu'un de Khoumir, c'était de voyou, de malotru, de pillard, voilà. Et paradoxalement, on va trouver aussi des friandises qui s'appellent Khoumir. Et là, je vous ai mis une liqueur, vous voyez. Donc, comme quoi, il y a en même temps ce côté rebelle, résistant, de guerre, mais... L'époque faisait qu'on utilisait, peut-être qu'aujourd'hui encore. Et alors, ils sont aussi très célèbres par le côté chevaleresque, le côté de l'utilisation des chevaux. On ne parle pas de fantasia à l'époque. Hein, voyez, et en 2016, il y a eu un festival équestre en Tunisie. Et ils étaient vraiment... ils se sont fait distinguer. Voilà. Donc, alors, c'était des nomades, mais... ils étaient aussi sédentaires. Hein. Vous voyez, certaines tribus Khoumir étaient sédentaires, les Hamdoun, les Nefza, voilà. Et alors, ce qui était particulier, c'est qu'ils ne vivaient pas dans des villages, mais plutôt en petites agglomérations, des douars. Hein, j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de la façon dont ils s'habillaient. Les hommes, donc, ils mettaient un turban, mais ils mettaient aussi le iqal. Hein, c'est ce qu'on trouve... en Arabie, vous voyez, c'est les deux cordes noires qu'on met sur... Donc, c'est assez étonnant, parce que on est quand même assez loin. Et les femmes portaient melhafa. Donc, c'est le... appel, voilà. Lahaf, hein, c'est le fait de se couvrir. Donc, et pour finir, donc, au niveau religieux, donc, ils étaient soufis. Et une fois par an, donc en été, ils se rassemblaient autour du marabout Sidi Abdullah ibn Jumel. Et il restait pendant 3 jours. Voilà. Donc, et là, il y avait justement des... Avec les chevaux, donc il y avait des spectacles. Et on arrive donc en Libye. Ça va, je suis dans les temps. Et Alors, pour la Libye, donc, il n'y avait pas d'hésitation, parce que le plus grand résistant, donc, entre 1858 et 1931, c'est Omar al-Mukhtar. Là aussi, c'est vraiment... c'est comme que, quand on parle d'Abdelkrim au Maroc ou quand on parle d'Abdelkader en Algérie. Donc, on l'appelle... Alors, ça aussi, c'est assez intéressant de voir les mots qu'on utilise entre les différents pays du Maghreb. Parfois, ils n'ont pas le même sens. Vous voyez, si on utilise le mot « moujahid » en Algérie, il va avoir un sens très précis, c'est une époque précise. Et quelques années avant, des dizaines d'années avant, on va utiliser le mot « moujahid », mais tout à fait dans un autre sens. Vous voyez, donc, soit religieux. Donc, et là, c'est très intéressant de s'arrêter à ce qu'il y a derrière le mot, parce que dans une époque où les mots sont utilisés un peu pour dire tout et n'importe quoi, en travaillant sur des mots comme ça, c'est très intéressant de voir, selon les textes, le sens exact qu'on donne à... Donc, on l'appelait le cheikh des moujahidines, ou le lion du désert. Alors là, vous verrez, ça, je crois que ça vous dit quelque chose, le lion du désert, non? Pour les cinéastes, non? Vous verrez, j'ai pris une... Il y a eu un film très célèbre, donc, qui raconte un petit peu l'épopée de Omar al-Mukhtar. Alors, donc, il est connu pour avoir organisé la résistance armée à la colonisation italienne. Alors, cette fois-ci, on change. On passe de l'Espagne et de la France à l'Italie. Et donc, il est d'origine adnanite, les Arabes du Nord, et de la tribu. Donc, c'est ceux qui ont arabisé, islamisé le Maghreb, les Beni Hillel. Donc l'Italie décide de constituer son propre empire, donc, comme les autres, et elle jette son dévolu sur la Libye, qui était donc avant administrée par l'Empire ottoman. Et donc la guerre entre Italo-Turc va se terminer en 1912, et les Italiens occupent la Libye, le pouvoir italien, et c'est le Idriss Snoussi, donc c'est le roi, puisqu'on est encore dans le royaume libyen, c'est le roi qui va être renversé par Mouammar Kadhafi. Idriss Snoussi va demander à Omar al-Mukhtar d'organiser la résistance à la colonisation italienne. Alors, avec des choses très très élaborées, un commandement militaire unifié, la collecte des taxes sur les animaux, sur les récoltes. Donc il y avait vraiment le côté financier, le côté logistique. Donc les tribus approvisionnées, et on sentait que la résistance était très solide. Et donc, alors en plus, c'était vraiment une lutte de guérilla, donc dans les forêts et vallées de Jebel al-Khadr, donc la montagne verte, qui surplombe la côte de Cyrénaïque dans l'est libyen. Et cette stratégie va lui permettre donc de tendre, alors encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la razzia, c'est vraiment, alors évidemment, on parle de guérilla, mais bon, je mets entre guillemets, mais c'était vraiment des pièges, c'est des traquenards, c'était des embuscades, et de prendre l'armée italienne qui était bien armée, qui était bien organisée, de la prendre par surprise. Et donc, Omar al-Mukhtar, il a remporté plusieurs victoires, et le plus célèbre, c'est les combats d'El Kafra, Rhiba, Aquila, Matmoura et Karassa. Donc il y a vraiment eu plusieurs batailles. Mais le 12 septembre 31, donc là aussi il faisait une mission de reconnaissance avec une quarantaine de cavaliers. Il va, alors exactement comme il faisait pour les Italiens, il va tomber dans une embuscade. Il est arrêté. Puis il y a une photo qui est assez impressionnante. La photo où on le voit avec les chaînes, donc quand il a été arrêté, donc jugé, condamné à mort, et il va être exécuté devant en plein public. Donc il y avait 20 000 Libyens qui assistent, et évidemment très fier, donc avant d'être pendu. Et pareil, donc là on retrouve, merci. Donc il y a le mausolée, donc à son honneur. Il y a eu des, alors cette fois-ci il y a eu des billets de banque à son effigie, donc, et même un pont donc, sur l'oued el-Kouf, et enfin le film, donc j'ai mis l'affiche du Lion du désert avec Anthony Quinn. Donc c'est le film de Aqad, Mustapha Aqad, sorti en 1981. Voilà, j'ai fini mon périple. Merci.
Mémodio, une mémoire sonore.